Je présenterai rapidement Baptiste Bespatin, qui est doctorant en sciences de l'éducation à l'Université Paris 13, qui travaille sur les relations entre le jeu, le loisir et l'éducation, et qui va donc ouvrir les interventions avec des éléments scientifiques, théoriques, qui vont nous aider tous à nous questionner un peu sur le jeu dans ce qu'il est, avant de parler après des mises en pratique dans nos établissements respectifs. Et donc, je pense que les éléments que Baptiste va nous donner ce matin vont nous éclairer et nous aideront tout au long de cette journée pour mieux nous questionner sur pourquoi et quel intérêt d'introduire le jeu dans les bibliothèques.
Voilà, merci beaucoup, Mélanie. Alors, je suis très honoré d'être présent parmi vous pour découvrir un monde que je connais plutôt du monde universitaire, notamment parce que je fréquente un peu plus les bibliothèques universitaires que les bibliothèques municipales ou départementales, et surtout parce que aussi j'ai un volume de documents sur mon ordinateur assez conséquent. Mais je vais moins parler de mes domaines de travail qui sont plutôt liés à l'animation, à l'éducation et en partie à l'école, et surtout en partie au centre de loisirs et au séjour de vacances, pour essayer de voir comment finalement la question du jeu, qui a travaillé à Paris 13 depuis au moins 30 ans avec en partie Jacques Henriot et Gilles Brouget, dont je suis un étudiant, peut aussi permettre d'interroger le monde des bibliothèques, même si je connais aussi un peu plus le monde des ludothèques que j'ai côtoyé, notamment par mes collègues Nathalie Roucous, mais aussi un peu le jeu vidéo avec d'autres collègues, notamment Vincent Béric, peut-être que certains connaissent ici. Du coup, pour commencer un petit préambule sur la question du jeu, ça reste un objet assez particulier, notamment parce que finalement, on utilise beaucoup le jeu et le mot jeu pour signifier beaucoup de choses. Et il y a une citation que j'aime beaucoup et que je présente souvent quand j'interviens auprès de différents publics, c'est celle d'Olivier Grandjouan qui dit que celui qui entreprend de parler du jeu en général est comparable à quelqu'un qui voudrait parler des étoiles et traiterait non seulement des astres lointains et en même temps que des étoiles filantes, mais aussi des étoiles de mer, une certaine décoration de la place de l'étoile et des vedettes de la scène ou de l'écran. C'est là où finalement le mot jeu ou le mot jouer est utilisé dans plein d'expressions, de citations, de métaphores, et c'est là où on a un peu de problème à cerner finalement quel est le jeu et quel est le sens du mot jeu. Donc j'en ai mis une certaine liste de jouer des coudes, jouer du piano, jouer des cartes sur table, jouer avec le feu, jouer la comédie, avoir du jeu, se jouer de quelqu'un ou de quelque chose, se placer sur l'échiquier du jeu diplomatique. En période d'élection, vous avez entendu souvent la question du mot jeu intervenir. En termes aussi de politique internationale, il y a souvent le terme jeu qui apparaît. Et c'est là où on a besoin aussi de prendre un peu quelques repères sur c'est quoi le jeu et comment on peut comprendre le mot jeu. On a souvent un décalage qui est fait dans la littérature entre les termes anglais play and game. Alors, certains le connaissent très bien. Il y a un autre décalage, notamment avec la langue portugaise, qu'on connaît un peu moins bien. Et notamment, ils ont trois termes pour parler du jeu. Tocar, jogar et brincar. Et c'est là où on a une petite signification, une petite nuance par rapport au français où on n'a qu'un seul terme qui est jeu, même s'il y a des déclinaisons sur le jouer. Alors tocar, s'il y en a qui ont des souvenirs d'espagnol, notamment au lycée, au collège, c'est notamment jouer de la musique. En français, ça reste jouer. Jogar, c'est plutôt lié au game et question du règle et du sport. Ce sont des jeux un peu plus organisés, réglés, a priori un peu plus fixés et établis. Et brincar, c'est plutôt lié au jeu des enfants. Côté un peu joué, un peu plus enfantin, plus lié au play, et qui lui est plutôt une sorte de pratique ludique. Pour continuer un peu dans ces distinctions, Jacques Henriot, qui est philosophe donc à Paris 13, avait déjà, quelques années, essayé de distinguer trois sens au mot jeu, qui sont assez importants et qu'on va reprendre par la suite. Il y a la question du matériel ludique, au sens où c'est avec ce avec quoi on fait un jeu, ce qu'on pourrait appeler les jouets, pour faire simple. Et la structure ludique, qui serait plutôt un système de règles qui structure des pratiques ou des actions. Et enfin, on va y venir à la fin, la question de l'attitude ludique qui est prise par la personne et ce qu'on appelle plutôt le jouet ER. Donc c'est là où on a des jouets ET, des jeux avec un X, et un jouet ER qui permettent déjà de poser quelques éléments sur la question du jeu. Alors pour aujourd'hui, c'est à partir de ces trois éléments finalement qu'on va essayer d'interroger le monde des bibliothèques, à la fois sur la question des jouets et du matériel ludique, à la fois sur la question des jeux et des structures ludiques, et enfin sur la question du jouet et des attitudes ludiques. En prenant deux exemples, un exemple surtout, c'est la question de la cour de récréation. Et après, pour revenir un peu plus fortement sur la question des bibliothèques, comment ce jouet ER vient interroger le monde des bibliothèques. Alors pour commencer, je pense que dans la salle, tout le monde connaît ces jeux-là. Tout le monde les a pratiqués, a priori. Ils font partie d'une culture ludique relativement partagée par beaucoup de monde, voire presque au niveau international, et ils sont relativement anciens. Les jeux suivants, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui n'en connaissent pas? Vous voyez à peu près tous comment ils jouent et à quoi ils jouent. Je ne parle pas ludothécaire. Du coup, on a trois jeux qui sont quand même relativement plus anciens, enfin plus récents, notamment les loups-garous qui ont été un carton, notamment parce qu'ils ont été diffusés par les supermarchés. Jungle Speed a un peu la même situation. Et le Dixit qui a connu un très grand succès ces dernières années. Et les jeux suivants, est-ce qu'il y a des gens qui les connaissent dans la salle? Deux. Takenoko. Et du coup, on est sur des jeux beaucoup plus récents, notamment Cold Express qui est de l'année dernière. Et si je demande à la salle qui est le dernier jeu qui a reçu l'As d'or à Cannes en 2016, c'est plus compliqué. Non, Seven Wonders est de 2010. Et on a là trois jeux qui ont reçu des prix entre quasiment beaucoup de villes, beaucoup de festivals de jeux, et qui sont connus, peut-être moins en France qu'ailleurs, mais ils sont relativement très connus de la communauté des joueurs. Tout ça pour dire qu'il y a quand même une culture ludique qui évolue énormément, voire qui est en expansion continue depuis des années, au-delà des jeux antiques, on va dire culturels, patrimoine, il y a quand même une production relativement énorme. Donc j'ai cherché quelques chiffres ces derniers jours, qui n'étaient pas évidents, mais en 97, on dénombrait à peu près 200 nouveaux jeux dans l'année. Et depuis 2005, le site TrickTrack, qui est un site de communauté de joueurs, en a au moins 800 en langue française. Le site BoardGameGeek, qui est un site américain, en compte au moins 2500 par an, tous les ans depuis 2005. Quand on regarde les nouveautés présentées à Essen, qui est un des plus grands festivals sur le jeu en Allemagne, il y en avait 1300 en 2016. Donc 1300 jeux dans l'année, vous imaginez que si vous jouez à chacun des jeux, ça fait beaucoup. Et enfin, par comparaison, même si ce n'est pas forcément comparable, la rentrée littéraire de 2016 comptait 560 romans. Donc on a quand même une production conséquente de jeux, qui est quand même relativement, pas liée lourde parce que c'est quand même amusant de jouer, mais... Et au-delà de ça, on a un marché français du jeu, qui peut être relativement très lourd aussi, pas loin de 4 milliards d'euros, donc ça c'est un chiffre que je récupère dans le Crédoc. Mais on pourrait le comparer avec les chiffres du marché du livre ou du marché de la musique ou du cinéma. On reste quand même sur un poids financier conséquent. Du coup, il y a une question qui peut interroger en premier lieu les ludothèques comme les bibliothèques. C'est comment on assure le prêt, l'entretien, la gestion, l'actualisation d'un fonds. Question peut-être bête, mais pas si bête que ça. Quand on a 1300 jeux qui sortent tous les ans, quand j'ai un stock conséquent, et je me souviens de l'image quand j'avais rencontré notamment Josette à Odyssée d'Ablagnac, des coulisses de la ludothèque où il y avait des placards entiers de petites pièces, de petits jetons, pour si jamais il y avait des pertes, pour si jamais il y avait d'entretien à faire, c'est quand même assez impressionnant. Et enfin, il y a une deuxième question, notamment pour les jeux vidéo, c'est comment on assure la numérisation, la dématérialisation, et le renouvellement des œuvres. Notamment parce que les consoles évoluent, les jeux évoluent, il y a des montées en gamme, ça demande des nouvelles ressources en termes d'ordinateurs, etc., etc. Donc ça pose des questions notamment financières, et aussi en termes de gestion du parc informatique notamment, ou des parcs des consoles. Et si jamais il y a des adeptes de rétrogramming, comment est-ce que j'ai encore des informaticiens, des techniciens qui maîtrisent DOS ou Windows 95, qui peuvent encore faire fonctionner des jeux relativement beaucoup plus anciens, qui ont aussi peut-être un intérêt en termes de culture ludique. Ou la NES qui a été relancée il y a quelques jours. Il y a quand même un travail conséquent là-dessus. Mais c'est une question qui est déjà, je pense, réfléchie par les institutions qui gèrent des objets, qui gèrent des produits, des documents, quels qu'ils soient. Pour passer ensuite à un deuxième élément sur les structures ludiques, on a beau avoir des jouets, c'est pas dit que... Je vais le formuler autrement, parce que j'avais déjà écrit... Un jeu peut faire des jeux, avec un X. Ou les jouets ne font pas les jeux, dans le sens où, avec un seul jouet, un seul jeu, combien je peux faire de jeux a priori? Avec un jeu de 52 cartes que tout le monde connaît, est-ce que vous avez l'idée du nombre de jeux que je peux faire avec? Non? L'infini? Pas tout à fait. Un peu moins. 50, un peu plus. Un peu plus? Encore un peu. On est plus ou moins à 102 règles que j'ai pu relativement, que j'ai parcouru, hein, je les connais pas toutes, j'en connais quelques-unes, mais on est sur un nombre conséquent. Donc c'est là où les objets conçus comme des jeux, des jouets, pardon, peuvent servir à faire beaucoup plus de jeux qu'on y pense. Si on prend un exemple totalement banal, le ballon en soi peut servir à faire des centaines de jeux. Donc c'est là où les jouets sont une chose et les jeux en sont une autre, qui est déjà une première distinction à faire quand je réfléchis à ces questions-là de jeux et de jouets. Ensuite, il y a un deuxième problème qui arrive. Comment je classe mes jeux ? Qui peut être relativement simple, mais pas si simple. Sans revenir sur des classifications relativement scientifiques de Keiwa, Huizinga et d'autres qui sont posé la question de comment on pouvait catégoriser les jeux, comment on pouvait les différencier, il en existe pléthore sur la question des mécaniques. Est-ce que c'est des jeux qui reposent sur la rapidité, sur la patience, l'adresse, la stratégie ou plein d'autres situations ? Est-ce que ça, on les différencie sur la question des âges ? On a souvent cette distinction-là qui est affichée notamment sur les boîtes, sur la question de la durée moyenne, sur la question du nombre de joueurs. Selon le matériel, on parle des fois des jeux d'arrêt, de cartes, des jeux de ficelles, des jeux de figurines, des jeux d'argent, des jeux vidéo. Mais est-ce que pour autant c'est une pratique pour les classer, pour les catégoriser ou pour donner l'information ? Sur la structuration des rôles, notamment, c'est une catégorisation de par le bas sur est-ce que c'est des jeux de coopération, de compétition, est-ce qu'on est sur des jeux de tous contre un, de chacun pour soi, etc. etc. Et enfin, une catégorisation bien connue du monde des ludothèques, qui est basée sur Ezard, entre autres, et des nombres de facettes, qui se rapproche un peu de la classification de Dewey, plus connue du monde des bibliothèques. Ou encore, parce que je suis tombé dessus récemment, sur la méthode rationnelle de Boursier, qui essaye de présenter un peu comment on classifie des bouquins. C'est relativement compliqué, je pourrais présenter la mienne avec mes maîtres linéaires de bouquins chez moi, mais ce serait encore autre chose. Mais on est là sur une question de classement qui n'est pas si évidente à gérer, et notamment avec des supports et des médias qui sont transmédiatiques. Si on pense à Pokémon simplement, ou à Game of Thrones, ou à Le Seigneur des Anneaux, on est sur des objets et des médias, un univers qui traverse le cinéma, les bouquins, les jeux, et encore bien d'autres supports. Et est-ce que je peux avoir un pôle dans une institution qui réunit tous ces supports-là ? Ou est-ce que je vais chercher des jeux dans un coin, des bouquins dans un autre, des films encore ailleurs, des musiques de films encore ailleurs, etc. etc. Donc c'est là où les classements n'est pas si évident que ça à prendre en compte. Une deuxième question qui arrive sur la question des jeux, elle a été entre autres évoquée tout à l'heure. J'ai retrouvé une vieille coupure de presse de 1913 sur les lectures de la jeunesse, je vous passe le détail, qui en vient à critiquer les œuvres lues par les jeunes. C'est assez classique, les jeunes ont des mauvaises fréquentations et des mauvaises lectures. Mais là, dans ce qui est dit, c'est qu'ils font des relations entre les crimes qui ont été faits par des jeunes et leur lecture. Donc ils ont lu des mauvais romans. Alors si je les retrouve, où est-ce que c'est Voilà. Notre littérature classique aujourd'hui était une mauvaise littérature à l'époque qui avait tendance à pervertir les jeunes. Oui. C'est une question assez récurrente, des croisades morales, je reprends le terme à Wibrin. À chaque évolution de médias ou de supports, on a toujours des critiques qui apparaissent dans différents milieux, dans différents médias. Sur les jeux de rôle sur table, il y a quelques années, dans les années 70 notamment, les jeux vidéo, sur les types de FPS ou les types de roleplay, les jeux de rôle, pardon, massivement multimédia en ligne. Les jeux de mise et d'argent dans le poker, il y a encore quelques années qui avaient cette question sur l'addiction, etc. etc. Et encore aujourd'hui, la réalité virtuelle, avec les casques notamment, est-ce qu'on n'est pas en train de déréaliser les personnes qui seraient enfermées dans une bulle ? C'est des questions qui se posent. Je n'y répondrai pas, et c'est peut-être pas mon rôle aujourd'hui, en tant que chercheur. Mais il y a une question de légitimation qui est posée, qui est récurrente, qu'on a retrouvée aussi dans le monde des bibliothèques sur la question de la bande dessinée. Est-ce que c'est un objet légitime qui peut avoir sa place dans une bibliothèque ? La littérature jeunesse, les comics américains, les mangas japonais, les manhwas coréens, ce sont des objets particuliers. Est-ce qu'ils font partie d'un fond ? Est-ce qu'on peut les mettre à disposition ? Comment on les place à côté de classiques, etc., etc. Notamment dans les bibliothèques, c'est un long débat aussi sur la question des licences. On parle, que ce soit Barbie, Hello Kitty ou encore Pokémon, est-ce que je les mets à disposition
c'est pareil pour les jeux vidéo. Est-ce que je vais prendre FIFA, Call of Duty et d'autres licences qui sont mondialement connues, que les gens peuvent avoir chez eux, ou est-ce que je vais plutôt aller voir d'autres produits, d'autres cultures, enfin d'autres licences en partie, ou d'autres objets. Et poser une question finale sur la question, enfin sur finalement, quelle sélection j'opère et est-ce que je suis prêt à assumer d'avoir des objets qui peuvent être discutables ou discutés dans une communauté à un moment donné. Mais toutes ces questions-là, finalement, c'est des questions qui sont en partie traitées par le métier. La question du classement, du fond, la question de la sélection, ce sont des choses qui sont assez communes, je pense, et ça s'y répond, et ponctuellement, des équipes les prennent en charge et font des choix. Ce qui me semble intéressant sur la question du jeu, c'est plutôt le jouer, et on va y voir pourquoi. Il y a une petite histoire que raconte Jacques Henriot que j'aime beaucoup, que je vais reprendre. Des cailloux alignés par terre, qu'est-ce que c'est ? Le passant l'ignore et les enfants surgissent. « Attention, monsieur, vous marchez dans notre jeu. » Les joueurs envolés, les cailloux retournent à l'état de cailloux. J'ai pas eu le temps d'accréditer, mais c'est une photo d'Hélène Levitt, qui est une grande photographe américaine. C'est là où le jouet introduit quelques complications qui sont un peu plus subtiles à prendre en compte. On peut jouer sans utiliser de jouets ou des objets joués. Dans le sens où j'ai pas besoin forcément d'avoir des jouets pour pouvoir jouer ER. On peut utiliser des jouets, ou des jeux, ou faire des jeux, sans forcément jouer. Dans le sens où on peut me mettre devant un tablier d'échecs, c'est pas dit que je puisse jouer. On peut prendre différents exemples dans ce sens-là. Il y a plein de jeux, je pense, pour vous dans la salle aussi, où vous avez du mal à y rentrer, à vraiment jouer avec. Et finalement, c'est qu'on peut faire quelque chose sans jouer, et on peut faire la même chose en jouant. La différence tient seulement au sens que l'on donne à son acte. Et en résumé, Henriot raconte que pas de jeu sans jouer et pas de jouer sans joueur. Et c'est là où il y a une dimension importante qui rentre en compte, c'est la question du joueur, qui va donner sens à son jeu. Alors, comment on peut comprendre le jouer ? Donc là, il y a le monsieur Brougère qui arrive, la crainte de monsieur des ludothécaires. Alors, Gilles Brougère détermine au moins deux critères fondamentaux qui déterminent, on va dire, la particularité du jouet ER, de l'activité ludique. La question du second degré. C'est un deuxième sens, enfin, en second degré, c'est assez simple, c'est la question du. C'est un peu comme dans la littérature, l'écriture, c'est l'humour, l'ironie, c'est un deuxième sens, un second degré qu'on donne à une lecture, à un texte. C'est à peu près la même chose sur la question de l'action. C'est un deuxième sens qu'on ajoute à l'action, dans le sens où je peux marcher, mais je peux aussi marcher et jouer à marcher en même temps. Les enfants font ça très bien. Quand j'ai visité la bibliothèque de Bordeaux, dans l'espace enfant, il y avait des carrés de différentes couleurs, et une jeune fille se déplaçait et sautait de carré en carré. Elle aurait pu le traverser simplement, mais elle a aussi joué à marcher en sautant de carré en carré. Si on voit un enfant qui balaye, est-ce qu'on peut dire qu'il joue à balayer ou qu'il balaye pour de vrai ? C'est pas évident. C'est là où le joueur donne sens à son activité, et ça peut être un jeu ou pas. Il y a la question de la décision qui est un deuxième élément fondamental, c'est que le joueur décide du sens qu'il donne à son action. C'est lui qui va dire si c'est un jeu ou non. Vous allez voir, ça pose des problèmes assez particuliers, qui impliquent notamment une incertitude, dans le sens où, selon les décisions qu'il va prendre le joueur, au fur et à mesure de sa partie, de son usage, il va pouvoir changer de direction, et la fin n'est pas forcément connue. Si je connais déjà la fin avant d'avoir commencé à jouer, est-ce que je vais réellement participer à ce qu'on me propose ? Sur la question du second degré, j'ai oublié, c'est qu'il y a une dimension assez frivole, dans le sens où il n'y a pas forcément de conséquences à ce que je fais. Que je marche ou que je joue à marcher, j'aurais pu marcher et ne rien faire d'autre, j'aurais fait la même chose. Que je fasse une partie d'échecs, ou que je fasse un jeu vidéo, ou que je fasse autre chose, il n'y aura pas de changement fondamental sur ma personne, si ce n'est mon état peut-être, et que je serais peut-être un peu plus content ou un peu plus détendu. Finalement, le jeu est une forme de loisir assez particulière. On peut le comparer à d'autres pratiques culturelles, d'autres pratiques de loisirs, que ce soit le théâtre ou le sport ou la musique et d'autres. Si ce n'est que jouer nécessite, on va dire, un haut degré de participation. Il faut que les personnes y mettent du leur, s'impliquent fortement et une maîtrise sur le cours d'action, sur la ligne de ce qui va se passer. C'est eux qui décident de ce qui va se passer. Le théâtre, on peut être spectateur au théâtre et apprécier, C'est une expérience tout à fait importante. On apprécie ces moments-là, de voir les acteurs se mettre en scène. Mais on peut aussi faire, un théâtre ludique, dans le sens où le match d'impro est une forme de théâtre qui s'écarte du texte, qui s'écarte du metteur en scène, qui s'écarte des codes et des rituels qui sont posés par le théâtre classique, où finalement, les acteurs ont une marge de manœuvre, un pouvoir sur la situation beaucoup plus fort. Pour la même chose, les échecs, qui sont un jeu relativement classique, connu, le roi des jeux, on peut le jouer de bien des façons. Les enfants n'y jouent pas forcément selon les règles du jeu. Je pense que certains le savent déjà. Mais du coup, on peut aussi en faire un sport dès lors qu'on l'intègre dans un dérèglement, une compétition internationale, des règles qui sont fixées, un certain nombre de codes et de règlements qui font que les échecs peuvent aussi devenir un sport. La lecture, qui peut être relativement déterminée, je commence mon bouquin et je le finis, etc., etc. Je suis la trame de l'auteur. Elle peut devenir jouable, elle peut introduire un peu d'incertitude, je peux donner un peu de place au joueur, lui permettre de décider des choses avec des livres de jeux, ou notamment les jeux dont vous êtes le héros, parce que finalement je peux changer l'ordre de ma lecture. Toutefois, le joueur est maître de son jouet, et on a souvent une image un peu idyllique du jeu, une idéalisation, souvent parce que c'est renvoyé à l'enfance, et du coup c'est forcément bon, c'est forcément innocent. Et il y a quelques contre-exemples que je vais passer rapidement, notamment sur les jeux des enfants noirs qui étaient victimes de l'esclavage, les jeux de guerre d'enfants pendant la Seconde Guerre mondiale, sur les jeux cruels, envers les animaux. On l'a tous fait quand on était petit, arracher les ailes des mouches et autres pattes de sauterelles. Il y a plein d'exemples. Et encore aujourd'hui, des enfants ou des adultes à Haïti ont des jeux qu'on pourrait considérer comme violents ou cruels. Mais c'est aussi des jeux et des pratiques à considérer dans un ancrage historique et culturel qu'on ne peut pas forcément dénier ou critiquer pour ça. Donc c'est là où on a des jeux, des pratiques qui sont forcément liés au sens que donne le joueur à ce qu'il fait. Un exemple dans la cour de récréation, dans le sens où finalement l'école a souvent réduit le jeu à la cour de récréation et l'a directement renvoyé à la cour de récréation, dans le sens où jouer dans la classe est très compliqué pour diverses raisons, dans le sens où si les élèves décident de ce qu'ils font et comment ils le font, quelle sera la place de l'enseignant ? Dans la mesure où si l'élève décide de sortir, de ne plus suivre le cours, la mission d'instruction est un peu plus compliquée. Donc le jeu est réduit un peu à la cour de récréation, et différents travaux montrent que la cour de récréation est relativement désertifiée, dans le sens où on a plus ou moins proscrit et largement régulé les jeux des enfants, que ce soit les billes, que ce soit les cartes, les cartes Pokémon notamment, la question des ballons, la question des élastiques, la question des puces de la poche ou des pétards, la liste est relativement longue. Il y a des échos rapides, mais je vais passer de suite à un autre exemple. Une enquête qu'on a faite avec le laboratoire Experis à Paris sur un dispositif anglais qui consiste à mettre des objets dans la cour. Ce ne sont pas des jouets, mais ils peuvent servir à jouer, ER. Donc on prend des objets recyclés, récupérés, on les met dans la cour, et je vais juste vous mettre la vidéo juste d'après. C'est très court, mais vous allez voir l'effet que ça peut produire. On peut même la... C'est très court. Ah oui, oui. Mais en quelques images, en quelques secondes, on voit des objets, on voit des pratiques, on voit des choses qu'on ne voit pas beaucoup dans les cours de récréation. Des choses qui roulent, des choses qui peuvent servir à faire la bagarre, etc., etc. Encore un coup. Et cette chose informe qu'on a appelée une forme de chenille aveugle. Voilà un peu l'effet. Donc souvent, la cour de récréation est un espace un peu vide, juste goudronné, avec quelques arbres et très peu d'objets qui sont faits pour jouer. Et les enfants font souvent des jeux liés à leur corps, à des poursuites, des trap-trap, parce qu'il n'y a pas forcément d'objets qui peuvent servir à jouer. Ces objets-là qu'on met dans la cour entraînent beaucoup de choses. Vous pouvez voir une cabane qui est juste là, avec des tissus. Vous avez une autre cabane là, vous avez des objets là, le tonneau qui a été très 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 utilisé, les poussettes qui servent à faire des courses, etc., etc. Et de l'autre côté, vous ne les voyez pas là, mais il y a des balançoires qui ont été construites, avec des cornes, etc., etc. Donc, la cour devient autre chose. Merci. Pour essayer de finir rapidement. C'est là où le jouet pose deux questions importantes, et je vais essayer de finir sur ça. C'est comment on peut, intégrer le jouet qui est forcément lié à l'imprévu. Je ne sais pas forcément comment les gens vont jouer, à quoi ils vont jouer, comment ils vont y jouer et sur quoi va se finir la partie. Donc comment des professionnels peuvent appréhender cette question-là ? C'est un imprévu assez complexe qui traverse le métier enseignant, qui traverse le métier de l'animation, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui, et qui interroge aussi les bibliothécaires dans ce que j'avais lu du rapport de Madame Legendre. Je propose juste un terme, je ne sais pas s'il est important, mais peut-être pour la suite du débat, où Marie Nova propose le terme de compétence ludique, qui est un élément pour les enseignants notamment, qui permet de savoir finalement est-ce que j'ai une capacité à appréhender le jeu dans toutes ses dimensions, notamment à distinguer le contexte ludique, savoir observer ce qui relève du jeu et du non-jeu, à quel moment j'entre dans le jeu, à quel moment j'en sors, est-ce que les personnes qui sont devant moi sont en train de jouer ou pas, est-ce que j'interviens auprès d'elles ou pas, si elles jouent peut-être que ce n'est pas nécessaire, si elles ne jouent pas peut-être que je peux les aider et les conseiller, à maîtriser un code ludique, ou une culture ludique de manière plus générale, c'est-à-dire les objets, les références, les jeux de manière peut-être encyclopédique des fois. Et est-ce que j'ai une capacité à concevoir des jeux et des espaces pour jouer ? Ça, c'est moi qui le rajoute. Dans le sens où est-ce que je peux aménager des espaces qui peuvent inviter les personnes à jouer ? Deuxième question, ça interroge l'institution de manière plus générale. Dans le sens où on a plutôt une tendance, notamment à l'école et à la cour de création dont je vous ai rapidement parlé tout à l'heure, à réduire les décisions des personnes et l'incertitude de manière générale. On sélectionne des jouets de manière très précise. À l'école, ils sont de manière assez interdite, ça va plus vite. Soit où on les sélectionne de manière très dirigée parce qu'ils ont des qualités. Notamment, les jeux d'échecs se conforment assez bien à l'univers de la classe ou d'un centre d'animation ou de la bibliothèque, parce qu'ils sont silencieux et pas très volubiles et pas très expansifs. On utilise des jeux conçus pour des finalités assez dirigées, notamment les serious games ou des jeux qui ont une visée particulière, dont on peut maîtriser le déroulement, on va dire, où je peux aussi circonscrire les pratiques, parce que je vais créer des espaces dédiés à des jeux ou à des pratiques, et du coup je peux séparer notamment les espaces jeux vidéo d'autres espaces. Donc je sais que je peux avoir mes joueurs dans un coin, qui ne vont pas empiéter sur d'autres moments. Et c'est aussi une division temporelle, dans la mesure où je peux créer des créneaux particuliers. Il y aura de telle heure à telle heure tel groupe d'âge, ou tel jeu, telle pratique, et comme ça, je peux faire en sorte que mon jeu ne déborde pas sur trop d'incertitudes, trop de bousculements de mon institution. C'est là aussi une question relativement générale, sur est-ce qu'une institution peut générer et organiser l'incertitude, et une certaine frivolité. Est-ce que je peux être financé par des fonds publics, etc. si je m'estime que ma seule mission, c'est de faire en sorte que les gens jouent et s'amusent. Ça peut être interrogant. Dans la mesure aussi où est-ce qu'une institution peut permettre une prise de décision des usagers, dans le sens où les usagers doivent avoir une place importante et doivent pouvoir décider et pouvoir participer à modifier ce qui se passe dans l'institution, ce qui n'est pas toujours évident dans les métiers de service. Et après, c'est une question de détournement. Je vais prendre juste l'exemple du toboggan à Angoulême, dont j'ai entendu parler ce matin dans la voiture. J'installe un toboggan. Est-ce que je peux accepter qu'il soit utilisé d'autres façons dont il a été conçu ? Exemple typique du toboggan, est-ce que je peux remonter le toboggan ? C'est une manière de jouer avec la conception de l'usage. Je joue avec mon toboggan. On verra ce qu'il en est à Angoulême, mais c'est une question assez complexe. Pour finir, je pense que sur la question du jouet ET et la question des jeux de manière générale, il y a des questions qui sont assez partagées par le monde des bibliothèques et des ludothèques forcément, sur les questions de conservation, de classement, de sélection, de légitimation. On ne va pas y revenir. Je pense que l'intérêt du jeu, c'est plus dans sa dimension de symbolique, ou on va dire dans le sens qu'il donne aux actions. Et forcément, ce jouet ER interroge nos institutions, parce qu'il crée de la distance, il crée un second degré, il crée de l'ironie, il crée beaucoup de choses qu'on ne peut pas maîtriser, il crée l'incertitude. Et c'est là où je trouve que cette journée est plutôt pour l'engager ensuite, intéressante de voir comment les ludothèques ont pu répondre à ces questions-là, parce qu'elles proposent un fonctionnement particulier. Elles ont des professionnels particulières qui ont une place et une posture très particuliers qui permettent justement de faire avec le jeu et le jouer ER des personnes. Mais pour cette question-là, je ne vais pas y répondre. Je vous laisse en discuter par la suite.